Bonjour, Monseigneur Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Nous voici presque arrivés au terme de cette semaine de pèlerinage à Rome. Vous êtes là avec 130 pèlerins du diocèse de Tarbes et de Lourdes. Si vous voulez bien, on va faire un petit tour de la semaine. Ce qui s'est passé tout au long de cette semaine, on va pas pouvoir tout raconter parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais on va essayer quand même de pointer du doigt des temps forts. D'abord, la belle chose à raconter, c'est que tout le diocèse était là au fond. Nous étions 130, mais tout le diocèse était présent.
J'ai aimé dire ce matin à la messe, en effet, que tout le monde était véritablement ambassadeur du diocèse, parce que la plupart, l'immense majorité des personnes du groupe ont été investies par des tas de gens du diocèse, d'intentions de prière apportées à Rome au moment du passage des portes saintes, etc. Et vraiment, en tout cas dans mon cœur aussi, mais pas seulement, j'ai senti que c'était le cas aussi pour beaucoup, beaucoup de pèlerins. Ils pensaient aux membres de leur communauté paroissiale, oui, aux gens de leur environnement, etc. Et pour ma part, c'était vraiment avec tout le diocèse que j'étais là. Et donc, je peux dire que par moi et la majorité des pèlerins, c'est vraiment tout le diocèse qui était en pèlerinage à Rome cette semaine.
Un pèlerinage à Rome, c'est vraiment, alors vous avez eu l'occasion de le répéter plusieurs fois pour les pèlerins cette semaine, c'est vraiment se recueillir sur la tombe des deux apôtres, Pierre et Paul. C'est ça qui constitue vraiment les deux piliers d'un pèlerinage à Rome.
Exactement. La tombe de l'apôtre Saint-Paul dans la basilique Saint-Paul hors les murs, la tombe de l'apôtre Saint-Pierre dans la basilique Saint-Pierre, lieu à la fois de leur martyre et de leur sépulture, et depuis l'Antiquité chrétienne, l'objet du pèlerinage à Rome, puisque Pierre comme Paul sont vraiment les colonnes principales, on va dire, de l'Église, qui s'est répandue dans l'Empire romain et dans le reste du monde progressivement. Et donc, Pierre, évidemment, avec la mission spécifique qui est la sienne, que le Christ lui a confiée, au bord du lac de Tibériade. Pierre, m'aimes-tu, dans ce dialogue absolument magnifique, sur lequel j'ai eu l'occasion de revenir pendant ces jours de pèlerinage ici, ce dialogue entre Jésus et Pierre, qui fonde la mission de Pierre, et depuis lors, ses successeurs, dans ce même dialogue, je me souviens qu'au tout début de son pontificat, le pape François avait réuni dans la basilique Saint-Pierre, autour de l'autel de la confession, près de la tombe de l'apôtre, l'épiscopat italien, et leur avait fait une longue méditation, s'adressant à eux, quelque part, finalement, « Pierre, m'aimes-tu ?» Et s'adressant à eux, il leur disait « M'aimez-vous ?» Enfin, c'est dans cette relation privilégiée de Pierre au Christ qu'est fondée la mission de Pierre, de conduire toute l'Église, de paître le troupeau du Seigneur. Et voilà, et on vient en pèlerinage à Rome pour vraiment nous greffer à cette source originelle du Christ par l'apôtre Pierre et l'ensemble des apôtres qu'il symbolise finalement.
Alors si on vient en pèlerinage à Rome cette année 2025, c'est aussi parce que évidemment c'est le jubilé, c'est une année jubilaire et nous avons donc passé, comme de très nombreux pèlerins que nous avons croisés, les quatre portes saintes. Peut-être d'abord un mot justement pour dire qu'il y a quatre portes saintes et qu'elles sont ici à Rome et elles ne sont pas dans les diocèses comme on a pu voir dans d'autres jubilés.
Le précédent jubilé, le jubilé de la miséricorde que le pape François avait voulu par exemple, des portes de la miséricorde avaient été ouvertes dans un certain nombre de lieux, d'églises remarquables que les diocèses avaient choisis pour être des sanctuaires de la miséricorde, et ils avaient créé des portes saintes pour cette occasion. Et cette année, au contraire, pour l'année 2025, pour ce jubilé-là, il a été souhaité que seules les portes des quatre basiliques majeures de l'Église, c'est-à-dire les quatre basiliques papales qui sont à Rome, Saint-Jean du Latran, la cathédrale du Pape, Sainte-Marie Majeure, Saint-Pierre et Saint-Paul hors les murs, soient les seuls à ouvrir leurs portes saintes. Dans l'architecture des bâtiments, de ces basiliques que l'on a pu visiter, les pèlerins ont pu se rendre compte, en effet, repérer, identifier cette porte qui, cette année, est ouverte, mais qui habituellement est soigneusement fermée, voire même murée. Et elle n'est ouverte que pendant les années saintes. Et donc, on a franchi les quatre portes saintes de l'année jubilaire.
Alors, avant d'expliquer un petit peu ce qui se passe et ce qu'on vit au moment des portes saintes, peut-être préciser aussi ce qu'est une basilique, au fond. Comment on définit, qu'est-ce qui définit une basilique?
Alors, le terme nous vient de l'Antiquité gréco-romaine. Une basilique, c'est un lieu, un bâtiment, qui est immense, très très vaste, pour accueillir beaucoup beaucoup de gens pour toutes sortes d'activités, que ça soit du commerce ou que ça soit un tribunal ou un bâtiment, voilà, qui a diverses fonctions. Mais le terme de basilique à l'origine désigne d'abord l'architecture, la forme du bâtiment destinée à accueillir énormément de monde. Et donc, quand les chrétiens, après l'édit de Constantin, au IVe siècle, ont pu sortir de terre, si j'ose dire, c'est-à-dire vivre au grand jour, à ce moment-là, ils ont utilisé des basiliques, soit des basiliques existantes déjà, soit ils ont construit des lieux sur le même type d'architecture pour pouvoir exercer leur culte et réunir la communauté chrétienne. Donc les basiliques, c'est d'abord ça, de très grands édifices capables d'accueillir une grande communauté. Et c'est tout à fait ce qui convient à,
idéal pour le peuple de Dieu,
à l'Église qui se rassemble.
Et donc, il y a des reliques dans les basiliques, il y a nécessairement des reliques de saints.
Alors, il y a des reliques de saints, bien sûr, puisque dès les origines, on aime vraiment s'inspirer de leur témoignage, de l'exemple, oui, du témoignage qu'ils ont donné en versant leur sang. Dans le cadre du martyr, on vient de quitter 3 siècles et demi de persécution, hein, depuis la croix du Christ et sa résurrection. Et donc, les restes des martyrs sont précieusement recueillis, conservés, et conservés dans ces édifices autour desquels se retrouvent les chrétiens.
Alors donc...
D'ailleurs, les pèlerinages autrefois avaient pour objectif, le pèlerinage à Compostelle, le pèlerinage à Rome, etc., de faire étape par étape escale sur les églises remarquables qui conservaient les reliques des grands saints de l'histoire.
Un parcours de basilique en basilique, on va dire, en quelque sorte. Alors donc, le passage de ces portes saintes, 4 portes saintes ici à Rome, dans ces 4 basiliques majeures, le passage des portes saintes, ça a quand même à chaque fois été un moment intense, très priant, très fort de notre pèlerinage.
On a bien préparé vraiment ces passages-là, en se référant aux indications données pour bien vivre l'année jubilaire, qui sont disponibles sur le site du diocèse, le site du sanctuaire à Lourdes, puisque j'ai décidé pour notre diocèse qu'on pouvait vivre le jubilé, recevoir l'indulgence attachée à cette année jubilaire.
Sans porte sainte, mais avec un chemin.
Sans porte sainte, mais avec un chemin, dans les 2 lieux qui ont été désignés, c'est-à-dire la cathédrale Notre-Dame de la Cède et le sanctuaire de Lourdes. Et donc, parmi les indications données pour vivre l'année jubilaire, eh bien, il y a non pas le passage de la porte sainte comme telle, mais de pouvoir prier notre Père, réciter le Credo, de pouvoir se confesser, pouvoir poser un certain nombre de gestes et bénéficier de l'indulgence.
Alors, ce qui a été quand même fort, c'est que cette prière du Credo du Notre Père, à chaque fois, c'est faite ensemble, en groupe. Alors après, évidemment, quand on passe la porte, on est seul, avec ses propres intentions, en silence, bien sûr, mais avant, on a prié à chaque fois tous ensemble, le Credo, le Notre Père.
Voilà, notre groupe était réparti en 3 sous-groupes, on va dire, en 3 bus, et chaque groupe était appelé à rester, à passer chaque porte vraiment ensemble et à se disposer par la prière avant le passage de la porte, qui elle lui-même se faisait en silence, et chacun passait en touchant la porte, voilà, en prenant un tout petit temps pour confier au Seigneur vraiment et à sa grâce particulière en cette année jubilaire et au moment où on passe sur la porte sainte, les intentions qu'il porte et pour lesquelles chacun a souhaité s'inscrire à ce pèlerinage, ou les intentions qui ont été confiées par des paroissiens ou par d'autres personnes.
Oui, et il y en a eu beaucoup d'intentions de prière amenées depuis la Bigorre et les 4 vallées jusqu'ici à Rome. Mardi, c'était la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Lors de la messe, pendant votre homilie, vous avez parlé de la figure de Jean-Baptiste comme un modèle, vraiment un modèle qui doit aider et guider, notamment contre toute forme d'abus. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que ça signifie, ça ?
Oui, j'ai souligné que pour moi, la figure de Saint Jean-Baptiste est particulièrement adaptée à notre temps, même si pour ma part, j'y suis sensible depuis le début de mon ministère, parce que Jean-Baptiste, vous voyez, il fait la jonction, on va dire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est le prophète qui va révéler aux croyants du peuple d'Israël le Messie qu'ils attendent. en la personne de Jésus lorsqu'il se présentera pour être baptisé au Jourdain. Et Jean-Baptiste, sa mission a été d'être le précurseur, de préparer les chemins du Seigneur, comme on le dit, c'est-à-dire de prêcher un baptême de pénitence, de conversion, changer vos cœurs, pour être disposé à accueillir, ça y est, le Messie, le Sauveur qui vient. Mmh. Les temps sont accomplis, ça fait 2000 ans qu'on l'attend, et ça y est, il va arriver, quoi. Et lorsque Jésus apparaît, vient demander le baptême que donne Jean-Baptiste, il va le désigner, puis se retirer. Et toutes les personnes qui s'étaient attachées à Jean-Baptiste et à sa prédication, et qui même certaines pensaient qu'il était lui le Messie, Jean-Baptiste les détourne de lui pour les greffer au Christ, et lui s'efface, il ne fait pas écran. Et pour moi, depuis mon ordination diaconale, Jean-Baptiste est vraiment un modèle de ce que doit être un diacre, un prêtre, et encore plus, je dirais maintenant, un évêque. C'est-à-dire que les gens ne soient pas attachés à sa personne, mais par son ministère, et y compris par des liens humains. Mais le but, c'est de les attacher, d'attacher les gens à la personne du Christ. C'est lui le Sauveur. Voilà. Alors pour moi, ce modèle pour tout pasteur, mais j'ai élargi le champ, aussi pour tout éducateur, catéchiste, animateur de jeunes, pour tout parent même, c'est de préparer la rencontre avec celui qui donne sens à la vie et qui va la rendre heureuse. Et moi, je dois m'effacer lorsque, ça y est, la greffe a pris. Je ne dois pas rester là et capter les gens sur ma propre personne. Et j'ai élargi encore en prenant l'exemple de personnes qui, dans l'Église, dès lors qu'elles exercent un service ou une responsabilité, ont tendance à s'accaparer cela, oui, à ne pas lâcher, à attirer les gens à eux, etc., etc. Et vraiment, je pense que cette façon de faire est le nid favorable à la commission d'abus de toutes sortes. Et Jean-Baptiste est une figure qui, si on limite, peut nous protéger de cela.
Alors, tout au long de la semaine, il y a eu beaucoup de temps fort. Mercredi, c'était l'audience comme toutes les semaines. Nous y étions, vous y étiez, vous, de très près. Hein. Vous étiez avec tous les évêques, les cardinaux aussi, je crois.
Il y avait
vraiment juste à côté du pape Léon XIV. Et puis, vous l'avez rencontré à nouveau ce jeudi, mais là, cette fois-ci, en audience privée avec le recteur de Lourdes, le père Michel Dauban. Vous êtes déjà revenu sur cet événement assez exceptionnel quand même sur l'antenne de Radio Présence, mais peut-être qu'on peut encore en redire un mot, parce que quand même, au cours de votre semaine, vous avez eu l'occasion d'échanger deux fois avec le pape Léon. Et de pouvoir voir de près cette figure de père, hein, vraiment.
Alors, la première fois, en effet, c'était hier, mercredi, au moment de l'audience, place Saint-Pierre, où à la fin de l'audience, l'usage, les huissiers invitent les cardinaux et évêques présents à aller se présenter devant le Saint-Père. Et donc, je me suis présenté, je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. On se voyait pour la toute première fois, et donc je me suis présenté comme l'évêque de Tarbes-Lourdes, et puis je lui ai confié ou rappelé, indiqué que de toute façon on se verrait le lendemain, donc aujourd'hui. Et puis derrière moi, Monseigneur Perrier s'est présenté lui aussi comme évêque émérite du diocèse de Tarbes-Lourdes, et ce matin, je suis allé donc pour ce rendez-vous avec lui, un long rendez-vous qu'il a souhaité avoir, alors même que la journée était particulièrement chargée, et j'ai bien vu quand on est sorti de son bureau avec le père Dauban pour repartir, qu'on a traversé un premier salon où l'attendait une foule de prêtres et d'évêques, et puis à l'extérieur, dans toute une cour du palais apostolique, une foule assez considérable de gens qui l'attendaient eux aussi pour après la première partie avec les autres. Bon. Et donc, malgré cet agenda très très chargé, il a souhaité nous rencontrer. Et là, j'ai pu vraiment, comme je l'ai dit déjà, apprécier la qualité de sa présence, de son écoute et de sa mémoire et pertinence, c'est pas le terme, mais en tout cas vraiment de ça, de son acuité par rapport au sujet dont on a parlé. Il posait des questions très précises pour bien comprendre. Puis il revenait en arrière en disant, mais tout à l'heure vous avez dit, est-ce que j'ai bien compris?
Alors, précis. Vous échangez en français?
En anglais, essentiellement en anglais. Et puis une fois ou l'autre, on traduisait un petit peu, ou il s'adressait en italien au père Dauban, qui ne parle pas très très bien l'anglais. Mais aussi bien lui que moi étions plus à l'aise en anglais, enfin lui très à l'aise en italien, moi beaucoup moins. Et voilà.
Il suit de près donc ce qui se passe dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes et plus précisément
au sanctuaire de Tarbes-et-Lourdes, pas encore. Nous ne lui avons pas encore posé assez de soucis pour qu'on soit, soit au-dessus de la pile pour lui.
Mais le sanctuaire de Lourdes est quand même un sujet.
Le sanctuaire de Lourdes, évidemment, est un sujet. Alors, j'ai eu la joie de découvrir qu'il était déjà venu à Lourdes lorsqu'il avait 19 ans et 30 ans. Il est venu deux fois dans sa vie. Et peut-être que j'extrapole, que je prends mes rêves pour de la réalité. Mais j'ai senti qu'il avait envie d'y revenir et ma foi, je n'exclus pas, je l'espère en tout cas qu'il le fera un jour.
Bon, vous l'avez invité.
En tout cas, je l'ai invité évidemment.
Et nous verrons bien.
Voilà.
On va arriver au terme de cet entretien, Monseigneur Mika. Peut-être pour conclure, un mot sur vous, votre semaine de pèlerinage. Personnellement, comment vous l'avez vécu, comment vous la vivez, hein, c'est pas encore terminé. Il reste encore quelques heures. On a pu remarquer que quand vous traversez Rome, vous croisez quand même quelques visages connus. Bon, il faut dire quand même qu'il y a ici le séminaire français dans lequel vous avez une responsabilité puisque vous êtes le référent de ce séminaire au nom de la conférence des évêques de France. Mais enfin, vous ne passez pas incognito à Rome, Monseigneur Mika.
Ouais, forcément, vous savez, ça fait un certain nombre d'années que je suis dans le ministère. Et Rome, c'est le lieu où tout le monde se croise, finalement. Surtout en cette semaine où il y a le jubilé des prêtres, des évêques et des séminaristes. Alors forcément, c'est un milieu que je connais plutôt. Et donc, la probabilité pour que je rencontre des gens connus est grande. Et je rajoute que mon ministère à Lourdes me donne aussi de rencontrer un certain nombre de gens et d'être repéré par un certain nombre de gens qui me reconnaissent ici, alors même que moi, de mon côté, je ne les reconnais qu'après coup.
Bon, la joie de la rencontre ajoute beaucoup d'émotions à
Mais
cette semaine.
Ma manière de vivre cette semaine, elle est très belle parce que je suis là avec mon diocèse.
Ouais.
Et ça, c'est une joie très, très profonde. J'avais voulu que ce pèlerinage, vraiment, dans le cadre de l'année jubilaire, de l'année sainte, en plus des 4 ou 5 rendez-vous donné au diocèse dans nos sanctuaires mariaux diocésains. Et vraiment, ce pèlerinage s'inscrit dans cette démarche globale. Et je suis ici avec le diocèse et je suis heureux d'y être avec le diocèse.
Et vous avez le temps, vous, d'en profiter, de vivre intensément, personnellement, de recevoir des grâces, de se jubiler.
Ben, ça, je pourrais répondre à votre question après. Mais en tout cas, le temps de vivre ceci ou de vivre cela, le Concile Vatican II dit que pour les prêtres, l'alimentation de leur vie spirituelle, c'est l'exercice de leur ministère. Eh bien, je fais cette expérience depuis que je suis prêtre, en effet. C'est dans mon ministère que ma vie spirituelle se nourrit. Et donc, le temps, ben oui, parce que je donne beaucoup de temps à mon ministère, je donne toute ma vie à mon ministère. Et donc, c'est ça qui alimente ma vie spirituelle, que ce soit dans le diocèse, ou que ce soit à Lourdes, ou que ce soit ici, à Rome, pendant cette semaine de pèlerinage avec le diocèse.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika. Merci de nous avoir accordé ce long temps, malgré la fatigue du pèlerinage qui commence à se faire vraiment ressentir. On vous retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Présence et sur Bigorre TV. En tous les cas, on vous souhaite un très bon retour dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Avec grand plaisir. Amitié à tous.